35, je crois, en effet. Et donc, on ne sait pas trop quelle est la véritable proportion de Mozart réellement dans cette œuvre. Et on ne sait même pas pourquoi il l'a vraiment faite. En fait, il y a tout un mystère qui est bien rendu dans Amadeus de Milos Forman, d'ailleurs. Mais Mozart amène quand même une théâtralisation de ses Requiem qui est vraiment un virage dans l'histoire des Requiem. On va écouter un autre, une œuvre magistrale qui est de Verdi, cette fois, le Requiem de Verdi. C'est des œuvres quand même denses, quoi. Voilà, pour grand chœur, chorale, etc. Verdi, lui, il était athée, donc il a un peu sorti le Requiem de son contexte liturgique pour l'amener plutôt vers l'opéra. Il a vraiment réalisé ça.
C'était vraiment l'urgence, en plus. Vraiment, il retranscrivait l'urgence.
Ah, c'était Georges Clooney.
Mais non.
Non, mais il y avait à chaque fois des commandes pour les funérailles, voilà, de grands noms de ce monde, pour, justement, qui étaient illustrés par ces Requiem. Alors, il y a dans la chanson populaire aussi des exemples de Requiem, on l'a entendu avec Johnny Hallyday, mais il y a également celui-là que vous connaissez toutes et tous.
J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le Requiem.
Pour un con. Gainsbourg, ouais, le Requiem pour un con, écrit sur la musique, le film Le Pacha, de Georges Lautner, en 68, en fait. Et alors lui, il appelle ça le Requiem, vous savez pourquoi ? Parce qu'au moment où Lautner lui demande de faire la musique, la séquence qui est sur la musique qu'il doit commencer à faire, c'est les funérailles d'un flic. Et ça devient Requiem pour un con, n'y voyez pas de symbolique particulière. Et cette musique a été interdite très très longtemps, qui a été censurée, parce qu'à l'époque où ça sort, sur le 45 tours, il y a marqué Requiem pour un C avec trois petits points. Parce qu'on ne veut pas écrire le mot con. Il faut attendre la veille de la mort de Gainsbourg en 91 pour que le 45 tours soit réédité et que ça vraiment soit connu du grand public.
Ouais. C'est beau.
Et je crois qu'il était fou du Requiem de Mozart, lui.
Il était
Gainsbourg.
Fou, absolument. Ouais. Il écoutait des nuits entières. Ouais. Il avait ce côté sacré dans cette musique qui portait, qui transportait Gainsbourg, qui a été très influé, et on le sait, par la musique classique de toute façon.
Et la réciproque est vraie, parce que Mozart était un fou de Gainsbourg. Apparemment.
Ouais, c'est
apparemment. Mais je sais pas.
Il allait le voir souvent. En tout cas, les amis, on peut applaudir Sabine. Bravo. Qui a 4 bonnes réponses. À condition de saisir ses réponses au vol. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le grand moment. Ouais, avec...
C'est un Requiem là, qui vous accompagne, j'ai entendu.
Oh, c'est sympa.
Il y a des fous qui vous accompagnent
j'espère
aussi.
Que, j'espère que ce sera un allégro si vous me donnez 10 bonnes réponses en moins d'une minute.
Ouais. Je savais même pas que c'était un mot. C'est comme ça qu'on me disait quand je jouais au foot. Allégro, vas-y. Je voulais détendre Sabine avant d'y aller.
Tu t'es fait du mal, c'est pas vrai. T'es pas si gros que ça.
Ouais. Sabine, c'est le pire que tout. 10 bonnes réponses en moins d'une minute, Sabine. Exercice de rapidité. Surtout, ne perdez pas de temps à trop réfléchir si la réponse ne vient pas, ok ?
Ok, merci.
Allez, Sabine.
J'adore le seul conseil qu'on donne sur le bras. Surtout, ne réfléchissez pas.
Ouais, à chaque fois.
C'est vraiment. C'est ce que j'ai fait au bac, ça n'a pas marché.
Si vous ne savez pas, vous ne perdez pas de temps, vous passez à la question suivante.
Voilà,
aussi.
Tout à fait.
Bon, bonne chance à vous, chère Sabine. Attention, top chrono. Au cinéma, en 1986, dans quel film Maverick est joué par Tom Cruise ?
Top Gun.
En 1986, à propos de quelle chanteuse Gainsbourg déclare « I want to fuck her » ?
Whitney Houston.
Aux échecs, quelle couleur de pion commence à jouer ?
Les blancs.
Si je donne 4 pains au chocolat par enfant à 5 enfants, j'avais combien de pains au chocolat ? Quel plat du sud composé de légumes mijotés rime avec ouille ?
Ratatouille.
Dans le Disney Ratatouille, quel animal tient le premier rôle ?
Une souris.
Il y a 50 ou 55 États aux États-Unis ?
50.
Quel est l'État américain le plus au nord ? Le Montana ou l'Arizona ?
Le Montana.
Quel rappeur a déclaré « Qui sème le vent récolte le tempo » ? Qui est la mère de Anna Biolay? Quel est le prénom de Benjamin Biolay?
Benjamin.
Oui.
C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais non, pas du tout.
On a
c'est
combien?
Pas bon, mais non.
Pourquoi?
On n'est pas loin, on est à quoi?
Moi, j'en
ai
un.
Mais ouais, c'est l'enfer.
Ah bon, mais non.
9.
Oh là là, on a refusé souris pour le rat.
Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Clément.
Parce que quoi ?
Elle a dit souris pour Ratatouille, elle a dit souris à la place d'un rat.
Ouais, oh, ouais.
Franchement.
Ouais,
non.
C'est quasiment la même chose.
Ouais.
Elle est passée devant
s'il vous plaît. Oui. Bon, Sabine, en tout cas, on sera ravis que vous vous inscriviez de nouveau, parce que vous êtes.
C'est pas juste.
Bah, non, on est d'accord, je suis d'accord avec vous, mais ils sont intraitables. Voilà. Il faut donner 10 bonnes réponses.
Rat, souris, moi je vous l'aurais accordé. Hein.
Vous avez été parfaite en plus.
C'est les règles. En, oh,
même,
c'est
ça. En même temps, vous êtes avocate, vous pouvez vous défendre.
Vous pouvez porter plainte.
Vous pouvez porter plainte.
Non, je ne vais pas porter plainte parce que je n'ai pas.
Et pourquoi pas?
Elle non. est avocate, hein, méfiez-vous.
Vous, vous savez ce qu'on fait, Sabine? Vous vous réinscrivez quand la cagnotte est encore plus haute.
Voilà.
Parce que vous êtes très forte.
Voilà.
Bon, en tout cas, je vous offre quand même une enceinte Bluetooth, un beau cadeau, quand même, Sabine. Minox de la marque française Lexon. Elle a été primée. Elle a une jolie morphologie. Il y a de jolies couleurs. Vous pouvez écouter Europe 1 partout, au bord de la piscine, sous la douche. Vous pouvez aller la découvrir sur lexon-design.com. Et puis, on vous embrasse très fort et on a passé un bon moment avec vous.
Bah oui.
Merci Sabine.
Je suis désolée, hein, j'aurais bien aimé saisir encore cette réponse au vol, mais ouais, là, ouais, ils ont été intraitables.
Voilà, on vous offre le DVD de Souris Tatouille, qui est une nouveau film, apparemment, qui vient de sortir. J'essaye de convaincre, tant ça marche toujours.
Gros bisous, Sabine. On vous embrasse. Bonne fin d'après-midi. Vous voulez passer un petit message sur l'antenne à quelqu'un de votre choix?
À mes parents. Voilà, qui m'ont fait écouter Europe 1 quand j'étais enfant.
D'accord. Et ils s'appellent comment, voilà, leur petit prénom?
Patrice et Françoise.
Mais ben nous aussi, on les embrasse. Alors, ils sont des fidèles auditeurs d'Europe 1. On rajoute 100 euros dans le jackpot désormais à 800 euros. Et nous accueillons Alexis. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Alexis.
Qui nous appelle
d'où? Bonjour. Alors, je vous appelle de Morsbach.
En Lorraine.
Pardon? Morsbach?
Morsbach.
Oui, Morsbach. Oui, c'était pour faire bafouiller Sophie.
Ah, vous connaissez bien Sophie. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Bafouiller Sophie.
Bafouiller Sophie, comment ça?
C'est pas possible.
Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il habite?
Morsbach. Morsbach. Que faites-vous dans la vie, cher Alexis?
Alors, je suis infirmier libéral.
Oui, en couple depuis longtemps.
Oui, depuis 20 ans déjà. Oui.
Bravo, bravo.
Quelles
Alexis.
Sont vos passions dans la
ah,
vie?
Merci. Pardon.
Quelles sont vos passions?
Alors, écoutez, donc, moi, je fais de la peinture. Je m'intéresse beaucoup à l'art. Je m'intéresse beaucoup aux animaux aussi.
Ouais.
Et voilà. Et puis donc là, la dernière arrivée, d'ailleurs, c'est une chienne de plus de 7 ans qu'on a récupérée dans un refuge qui était maltraitée. Donc ça, c'est un petit peu le.
Ah,
le
c'est
petit
bien hobby. Ça. Bravo, oui. Bravo, Alexis. Et alors, vous l'avez appelée comment?
Sophie.
Non, non, elle s'appelle Lola.
Ah oui. Trop mignon. Il paraît qu'on se connaît depuis longtemps, Alexis.
Ah mais oui, ah car bon en fait, moi... Mais...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment ça?
Non, mais virtuellement.
Ah oui.
Virtuellement, oui, oui. Non, non, car c'est vrai que depuis tout petit, en fait, je regarde Télématin depuis l'âge de 10 ans. Mmh. Et en fait, j'ai connu Sophie avec le Gamme Énergie sur Télématin. Et puis après, voilà, sur le coup, Sophie, en fait, m'a accompagnée dans ma vie.
Ben oui, c'est ça, alors. Vous êtes mignon. Dès l'âge de 10 ans, vous m'avez connue peut-être un peu plus tard, quand même. Hein, parce que... On n'a pas tant de différence que ça.
Il a 23 ans.
Il ne faut pas exagérer non plus. Je ne suis pas votre grand-mère.
Ah non, mais non, non, non.
Bon, en tout cas, ça me fait plaisir, cette fidélité, voilà. On va jouer au qui ou quoi, Alexis. Je vous rappelle qu'il y a 800 oui. euros dans le jackpot et qu'il faut trouver 4 bonnes réponses. Le qui ou quoi?
Quoi? Qui? Europe 1. Le qui ou quoi?
Alors, vous allez bien écouter les indices qu'on va vous donner et il faut deviner de qui ou de quoi on parle.
Avant que ça arrive, on n'avait jamais entendu parler de cette ville.
Il nous a dit que ça n'est pas arrivé jusqu'à chez nous. Fake news!
L'accident est venu avec un test pour prouver que tout accident était impossible.
Il paraît que ça a donné des loups mutants. Je vais aller ailleurs en vacances.
Tout a commencé dans le réacteur 4.
Ah oui.
De quoi parle-t-on?
Oui. Clément. Je pense que je l'ai, le réacteur 4, ouais. Je pense qu'on l'a.
C'est, oui, on... C'était là, c'est un triste anniversaire. Oui. Est-ce que vous avez la réponse?
Oui, oui, bien sûr.
Oui, oui, oui. Surtout que le nuage s'était arrêté à notre
frontière. Hein. Ouais, c'est
mais
ça.
Oui,
oui, voilà.
Il a fait demi-tour vraiment devant chez nous.
Ouais. Alors, Alexis, voilà, du coup, c'est quoi?
Facile, Alexis.
Alors, c'est l'accident de la centrale de Tchernobyl.
Eh, bravo, c'est une bonne réponse. C'était il y a 38 ans le plus gros rejet radioactif non contrôlé de l'histoire. Au moment de l'explosion, deux ouvriers sur place sont décédés. Sur les 134 employés sur place, 28 sont décédés suite à une irradiation aiguë. 116 000 personnes ont dû déménager avant la guerre. Un tour opérateur proposait une visite de la zone de Tchernobyl avec des visites dans les villes abandonnées. C'est horrible.
Et il y a une série à nouveau à mettre.
Non, il y a une série qui est extraordinaire parce qu'ils sont décédés, mais ils ont donné leur vie. Il y a une série qui s'appelle Tchernobyl qui était sortie, je crois, sur Arte à l'époque, qui est juste incroyable. On comprend qu'il y a un problème technique. Ils le savent et ils vont chercher des personnes dans les mines en leur disant écoutez, vous avez l'habitude de travailler dans des conditions terribles, il faut y aller, sinon toute l'Europe peut mourir, il faut y aller, vous allez peut-être pas survivre, mais allez-y, et ils y vont, en fait, ce qui est l'histoire vraie, et je vous conseille cette série qui est juste incroyable.
Ah bon, et ça s'appelle comment? Tchernobyl.
Tout simplement.
Ouais. Alors, ce qui est terrible, je ne sais pas si c'est votre cas, Alexis, le nuage a sûrement survolé l'Est de la France, mais moi, j'ai des tas d'anecdotes de personnes qui ont séjourné sous le nuage radioactifs et qui ne sont plus là aujourd'hui, quoi, ont été malades, quoi, qui ont développé des cancers ou des maladies.
Qui étaient en France ou plutôt dans l'Est?
Qui étaient dans le sud-est de la France.
Waouh! L'explosion des cancers, la thyroïde,
une bande de copains qui étaient tous allés se baigner dans le sud-est de la France. Ils se sont baignés manifestement sous le nuage.
Et combien de temps après ils ont commencé à avoir des.
Ça, je ne saurais pas vous dire, mais ils sont tous décédés aujourd'hui, quoi. C'est horrible. Bon, enfin, ça plombe. L'ambiance.
Ça plombe,
mais ça fait une première bonne réponse. Il m'en faut encore trois pour pouvoir prétendre au jackpot. Et voici une question.
Seconde guerre mondiale. Avec donc...
Non, c'est pas tellement plus drôle. Hein. C'est une question révolution. Révolution des œillets, Stéphane Bern en parlait hier sur Europe 1, qui fête ses 50 ans. 50 ans que le peuple portugais a fait tomber la dictature installée par Salazar en 1933. Pour coordonner tout un pays et ce sans Internet, il faut user de malice et d'ingéniosité. Sauriez-vous me dire quel fut le fameux signal qui a prévenu le peuple portugais du début de la révolution? Un œillet fut déposé dans toutes les boîtes aux lettres du pays de la veille de la Révolution. De grands feux de bois furent allumés sur tous les monts et collines du pays pendant la nuit du 24 au 25, où une chanson normalement interdite d'antenne a été diffusée peu de temps après minuit sur une radio nationale. Alors, Alexis, à votre avis?
Alors, moi, intuitivement, je parlerai de la chanson.
Ouais.
On peut faire par déduction.
Intuitivement.
Ouais.
Ouais.
Oui.
C'est vrai que les boîtes aux lettres.
Les boîtes aux lettres, non. On se dit que la fumée, ça a été le cas. Dans d'autres choses, c'est un message presque trop facile.
C'est pour le pape.
Mais surtout, c'était en
33. Non, c'était il y a...
En 74, pardon. Le côté signaux de fumée, c'était déjà un peu obsolète, quoi.
Ça pouvait, mais j'aime le côté radio, il y a le côté...
Et puis c'est plus facile, pirate. Techniquement, c'est plus facile. Tu vas dans une radio et tu arroses tout le monde.
Oui, oui, bien
alors
sûr.
Alors que le reste, c'est vachement
plus compliqué. Nous, on est d'accord avec vous, Alexis.
Je m'adresse à tous les Français, si vous entendez Vianney dans les prochaines minutes, c'est
la révolution. C'est la révolution.
Alors, je bloque votre réponse.
Alors, vous pouvez bloquer Sophie avec plaisir.
Vous êtes sûr, Alexis? Vous êtes sûr?
Et c'est une bonne réponse.
Bravo.
Bravo, Alexis.
Merci aux copains.
C'est celle-là, la chanson?
Ouais.
C'est la chanson.
J'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui n'étaient pas au courant et qui ont juste apprécié la musique.
Grandola Villa Morena, bon, j'ai pas l'accent portugais, hein, de Zeca Afonso, qui a été diffusée sur Radio Renascença, une radio très conservatrice, afin de synchroniser les militaires démocrates à travers le pays et ainsi commencer la révolution des œillets. Alors pourquoi les œillets? Vous savez pourquoi elle s'est appelée comme ça?
Mais vous allez nous le dire, chère Sophie.
Oui, parce qu'au moment de cette révolution, le marché aux fleurs de Lisbonne était abondamment fourni en œillets. Et la fleuriste Céleste Caeiro décida d'en offrir aux soldats de la Révolution qui s'empressèrent de les mettre au bout de leurs fusils. Ça fait deux bonnes réponses pour vous. Et là, on va jouer avec les archives d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 depuis toujours?
Écoutez, depuis un certain nombre d'années, oui.
Ouais. Bon, ça tombe bien. Mais là, à mon avis, vous n'étiez pas né.
Mais non, je ne pense pas.
Parce que nous allons partir en 1962. C'est
bien sûr Europe 1. Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1. Et on va parler d'amour.
À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer ?
L'amour, je sais. C'est ça la question ?
Non. Qu'est-ce que l'amour ? Ah
ben voilà. C'est trop facile
Théo Sarapo et Édith Piaf.
Oui, bien sûr. Donc, c'est le couple Théo Sarapo et Édith Piaf en 1962. Le couple dont tout le monde parle, chante ensemble. C'était son dernier petit protégé, ouais. Théo Sarapo. Ils ont 21 ans de différence et cette même année, ils vont se marier. Donc, Europe 1 fait l'interview des parents grecs de Théo Sarapo.
Alors, je vois, Madame Sarapo, que vous vous préparez à aller au mariage, que vous avez encore vos bigoudis et un filet.
Eh oui, je me prépare parce qu'il faut qu'on se voit là-bas à 1h30 à la maison.
Alors, vous êtes satisfaite de ce mariage, Madame Sarapo ?
Oh oui.
Vous êtes contente de ce mariage, Monsieur Sarapo ?
Au début, ça m'a choqué beaucoup. Et c'est comme tout le monde.
Qu'est-ce que vous allez leur offrir comme cadeau de mariage ?
Ça y est, c'est fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Je l'ai vu venir, le truc.
Alors, qu'est-ce que c'est, justement ? C'est la question, Alexis. Est-ce qu'ils leur ont offert un service à thé, une poule et un coq, ou une saucière à bec en inox ?
Une saucière à bec, ça m'étonne.
Alors, ouais, moi, je pense plutôt à une poule et un coq.
Oui.
Ouais, parce que le service, oui, non, je. Ouais.
La première, c'était quoi ?
N'oubliez pas qu'ils habitaient Paris quand même.
Ah,
hein.
Oui, c'est vrai. C'était quoi la première ?
C'est vrai.
La première proposition, c'est quoi ?
La première, c'était.
C'est quoi la première
Alors,
proposition ?
La première, c'est un service à thé.
Ah, un service à thé.
La deuxième, c'est une poule et un coq. Et la troisième, c'est une saucière à bec en inox.
Allez, le service à thé.
Ouais, ouais.
Cela dit, elle habitait Montmartre. Hein. Montmartre, il y a des jardins, peut-être.
Ah, elle avoue, ouais. Vous nous faites hésiter.
Il faut y une bonne enquêtrice.
Bah, la poule et le coq, c'est violent quand même.
Mais en même temps, ça vaudrait le coup d'en parler, mais ça me paraît trop absurde parce que c'est une blague de copain. C'est pas les beaux-parents qui font ça. À moins que ce soit une tradition à l'époque et que je l'ignore. Mais
non, le service à thé, c'est assez neutre en fait. C'est un truc, c'est pas cher.
Et puis, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui a tout ? Mis à part un antivol ou une alarme, il n'y a pas grand-chose. Un service à thé,
c'est pas mal. Donc, Alexis ?
Ouais, service à thé.
Écoutez. Ouais, bon, je vais suivre la vidéo.
On n'est pas super sûr, quand même. On n'est pas super sûr, Alexis. Vous avez entendu notre hésitation ?
Oui, tout à fait. Oui. La poule et le coq, moi, ça m'aurait bien plu.
Le
mais
coq.
Bon.
Ouais. Moi, j'aime bien l'idée aussi, mais.
Ouais. Bon, on va passer sur le service à thé, alors.
Alors, je bloque cette réponse ?
Moi, j'aurais choisi ça. Allez,
écoutons la réponse.
Assumons.
C'est un service d'été parce qu'ils boivent beaucoup du thé. Que du thé, alors ? On a pensé que c'était le mieux de ça.
Alors, comment allez-vous vous habiller pour aller cet après-midi au mariage ?
Ah, comme l'habitude.
C'est-à-dire ?
Mon costume, il est à gris foncé.
Chapeau ?
Ah, mon chapeau, toujours. Toujours le chapeau parce que j'ai pas de cheveux.
Technique grecque.
Imaginez un coq dans un jardin de Montmartre.
Oui, mais en 62, c'était pas le Montmartre là.
Non, oui, mais ça aurait importuné les voisins. Ouais, quand même.
Je pense que ça aurait été pour le manger.
Ouais, ça aurait été mal pris un peu.
Terrible.
Tu te vois vivre avec ça au mariage de
ton fils. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse.
Bravo,
pour
Alexis.
Vous, Alexis. Bravo.
Alexis, c'est bien joué. Hein.
Alors, sachez qu'Édith Piaf va mourir un an après s'être mariée. Elle avait 47 ans, hyper jeune. Au moment du mariage, Théo avait 26 ans. Et il va finalement mourir dans un accident de la route à 34 ans. Oh, ils reposent ensemble, Édith et Théo.
C'est joyeux aujourd'hui, donc. Hein, ouais. On était sur Tchernobyl il y a un quart d'heure.
J'ai commencé avec le Requiem aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est ma faute, en fait.
Tu nous as mis l'œil, Yvan.
Ouais. Bravo.
Alors, on enchaîne avec une question... insolite.
Open Gangnam Style.
Gangnam Style. Alors, on part pour la Corée du Sud. Dans ce pays, il existe une loi particulière, ça s'appelle la loi Cendrillon. Et il est question de la renforcer ces prochains jours. Il est question même qu'elle débarque prochainement en France.
Mais non.
En quoi consiste-t-elle ? Est-ce que c'est une loi qui interdit les applications de rencontres aux mineurs ? Est-ce que c'est une loi qui interdit aux mineurs de jouer aux jeux vidéo la nuit ? Ou est-ce que c'est une loi qui interdit de porter des pantoufles en verre trop dangereux ?
Plus que minuit. Deux.
Bon, à mon avis, Alexis va trouver un bon instinct.
La une ou la deux, Alexis ?
Je pense savoir.
Ben, moi, je pense aux rencontres, au réseau de rencontres.
Alors moi, je serais parti sur l'autre parce qu'en Corée, en Asie, c'est incroyable et c'est vraiment un souci, les jeux en vidéo.
L'addiction
aux écrans et aux jeux en ligne. En France, c'est plus calme à ce niveau-là. Et les étudiants passent passent leur nuit à jouer et sont plus du tout aux affaires le reste du temps.
Et c'est une loi Cendrillon qui dit vrai. Cendrillon oui. dit on s'arrête à minuit, on rentre à
mais
la
oui,
maison.
Oui, ça a du sens, voilà. Il y a du sens.
Donc,
il y a du sens.
Oui.
Et ben oui.
Qu'est-ce qu'on est fort.
C'est bien la première fois en deux mois
qu'est-ce qu'on est
que j'ai un cerveau. Profitez-en, Alexis.
Vous êtes bien tombé, Alexis, aujourd'hui, hein, avec cette équipe.
Je suis heureux.
Vous y êtes allé, Alexis, en Corée du Sud?
Non, non, jamais, non, non.
Bon, c'est une réponse non. importante, car c'est la quatrième réponse. Oui. Si
on
elle est,
bonne,
vous tenterez alors, le jackpot.
Alors, écoutez, moi, je vais faire confiance à tous les copains, et surtout aux neurones des Nora.
Ah, oui. Et,
on ne s'est pas planté depuis 92, vous pouvez nous faire confiance, je pense.
Alors, on le sent bien, on le sent bien.
Voilà. Alors donc, effectivement, on va bloquer la réponse pour l'interdiction des jeux.
C'est la 2, alors, hein, ouais. c'est ça
La deuxième. C'est ouais. une loi qui a interdit dès 2011, au moins de 16 ans, de jouer aux jeux vidéo après minuit. Bonne
oui
réponse
wow.
Wow. Merci tout le monde.
C'est alors, parti. Le dispositif est simple. Les constructeurs génial. De consoles de jeux sont obligés de mettre un filtre pour que les jeunes gamers qui jouent la nuit ouais. soient repérés. Mardi dernier, le président Macron a annoncé qu'il ouais. pensait sérieusement restreindre le temps des jeunes devant des écrans. Ouais. Affaire à suivre, on verra.
Il y a eu 270 morts. C'est la thématique aujourd'hui. À chaque fois, après une info sympa, il y a un truc qui plombe.
Bon, en tout cas, ce qu'on peut applaudir
ici.
En route pour les pépettes. 800 euros, 10 bonnes réponses à me donner en moins d'une minute. Exercice de rapidité.
Il est confiant, oui. Alexis, il est confiant.
On
vous souhaite bonne chance. Attention,
merci.
Top chrono. Vrai ou faux, c'est Didier Barbelivien qui a écrit Chaud Cacao.
Faux.
En 1959, quelle salade chante Bourville?
Des fruits.
Un ornithologue étudie quoi?
Les oiseaux.
Quel oiseau avec deux i est tout petit et a des battements d'ailes super rapides?
Oh mince, j'ai un trou, je passe.
Quelle Louise propose de t'emmener au vent, de t'emmener au-dessus des gens?
J'ai pas compris la question.
Quelle Louise propose de t'emmener au vent? Sabine Paturel a chanté Les Bêtises ou Les Bourdes?
Les Bêtises.
Qui a le plus de vin, le Jéroboam ou le Mathusalem?
Le Jéroboam.
Comment on appelle l'étude du vin?
L'œnologie.
Vrai ou faux, la Vénus de Milo n'a pas de tête?
Faux.
Avec quelle chanteuse Renaud interprète Manhattan Kaboul?
Axel Red.
Karen Chéril a chanté Les Nouveaux quoi?
Les Nouveaux Amoureux.
Quel est le prénom de Newton? Oh là 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 là. Bonne réponse, on n'était pas loin.
Vous êtes tellement bien défendu, je suis dégoûtée.
C'est Louise Attac qui vous a
quel oiseau, celui qui a des battements d'ailes très rapides, il fait même de la marche arrière, il fait du surplace aussi.
Mais là j'ai un trou, mais il est énorme.
C'est le colibri.
Le colibri, voilà.
Oh là 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 là.
Mince. Oh.
Voilà.
Voilà.
À mon avis, c'est Sébastien qui a écrit le jackpot. Il devait rentrer de déjeuner, hein, parce qu'il a posé beaucoup de questions sur le vin. Non
je sais même avec qui il a déjeuné, je l'ai croisé.
Qui contient le plus de vin, le Jéroboam ou le Mathusalem? C'est le Mathusalem.
Le
Jéroboam, c'est 3 litres.
Et l'autre, c'est 5.
Et l'autre, c'est 6.
6 litres.
Oh, mais ça, c'est un lundi, ça. C'est rien. Je plaisante. Hein.
Et Karen Chéril, on en parlait à l'instant d'ailleurs, qui est chez nous, Isabelle Morizet. Elle a chanté Les Nouveaux Romantiques.
Vous étiez tellement sympathique,
Alexis.
C'est la pub.
Oh, ben, c'est gentil. En plus, j'adore Isabelle Morisset, enfin Karen Chéril.
Oui, nous aussi, on l'aime.
Vous savez que son coffret est ressorti, là. Son coffret de tous ses tubes des années 70. Vous l'avez acheté?
Non, pas encore.
Ouais, elle est diffusée dans les boîtes de nuit et tout, c'est un truc de dingue.
Il paraît que ça cartonne.
C'est fou. Ouais,
bon, nous, on vous offre un joli cadeau, une enceinte Bluetooth Mino X de la marque française Lexon. Primée pour sa forme ergonomique, ses performances, son époustouflante qualité sonore. Vous pouvez écouter Europe 1 partout, dans la piscine, sous la douche. Vous pouvez aller la voir sur notre site, sur leur site, lexon-design.com. On vous embrasse, Alexis.
Allez, super, Alexis.
Bisous, Alexis.
Je vous embrasse tous très fort.
Ouais,
merci encore pour votre accueil.
Bah, avec
et
plaisir.
Puis, bah, à très bientôt.
Vous avez quelqu'un à saluer, peut-être?
Eh bien, écoutez, on va faire un gros bisou à ma maman et aussi à tous mes amis qui m'écoutent.
Et votre maman,
aujourd'hui.
Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Odette.
Bisous, Odette.
Bisous, Odette.
On embrasse Odette. Voilà. Elle habite pas très loin de chez vous?
Elle habite pas trop loin de chez moi, oui, tout à fait.
Quelle rue? On veut tout savoir. C'est pour le gigot dimanche.
Et ben, en tout cas, Odette, vous avez un fils très sympathique. Ah ouais, bravo, ouais, à vous, très sympa. Ouais. Allez, bonne fin d'après-midi,
Alexis. Merci.
Merci.
Restez bien à l'écoute d'Europe 1. 900 euros désormais dans le jackpot, puisqu'on rajoute 100 euros. Et nous accueillons Marjorie. Bonjour Marjorie.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Marjorie.
Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites vous Marjorie?
Alors moi je suis prof de français et de latin.
À quel endroit?
Au collège. Dans le Puy-de-Dôme, au nord de Rion.
D'accord.
C'est une petite ville, voilà. Dans le nord du Puy-de-Dôme je suis.
Très bien, vous avez des enfants?
Oui, j'ai deux grands, j'ai un grand garçon qui a 20 ans et une plus petite qui a 18, elle s'appelle Noémie.
Donc vous êtes une grande lectrice, j'imagine?
Oui.
Pas
oui.
Du tout, je déteste la littérature, je suis prof de français.
Est-ce que vous avez lu déjà Joël Dicker, qui est notre invité?
Alors, hormis son dernier livre que je me réserve pour cet été, je les ai tous lus.
Génial. Bah, vous allez pouvoir dialoguer avec lui dans quelques instants. Alors, Joël Dicker est notre invité, je parlais d'un invité de talent, eh bien c'est lui que nous recevons en quelques années. Ses romans comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Le livre des Baltimore, L'énigme de la chambre 622 ou encore l'affaire Alaska Sanders ont conquis le cœur de plus de 15 millions de lecteurs et tous sont traduits dans une quarantaine de langues.
Ouais, ça fait beaucoup, hein.
C'est énorme.
Merci de l'invitation.
Comment on réagit à tout ça? Quel est votre regard?
C'est très abstrait parce que on n'a pas, nous les écrivains, on n'a pas ce rapport direct avec tous ces lecteurs. On a un rapport direct avec ceux qui nous font le plaisir de venir nous voir en librairie quand on signe, mais c'est quelques centaines de personnes à la fois. Il n'y a peut-être pas ce rapport que des musiciens peuvent avoir quand ils jouent devant des milliers de personnes ou peut-être que les acteurs ont parce qu'ils représentent vraiment leur œuvre, même s'ils jouent un rôle, ils représentent qui ils sont, on les reconnaît. Un livre, c'est différent parce que les lecteurs ont un rapport au livre, au texte, et pas forcément à l'écrivain. Et moi, on me dit souvent, j'aime vos livres, j'aime ce que vous faites, et pas je vous aime. Mmh. Donc, il y a ce biais qui fait du bien.
Nous, vous aime.
Oh, bon,
alors, c'est Joël Dicker.
Merci, vous avez entendu cette complainte pleine de tristesse. Personne ne m'aime, mais vous êtes là, merci.
Alors, Joël qui vient de publier son 7e roman intitulé Un animal sauvage chez votre maison d'édition, Rosie and Wolf.
Oui.
Clément?
Moi, j'en ai lu pas. J'avais une autre question par rapport à ce qu'on disait à l'instant. Est-ce que contrairement à des acteurs et des chanteurs, on a aussi des haters, des gens qui vous écrivent pour dire j'ai pas aimé, mais qui l'ont quand même lu, qui les achètent tous, mais qui critiquent quand même? Est-ce que ça existe quand on est écrivain?
Très peu,
un
très
peu.
Ouais. Non mais
je veux dire des lecteurs lambda, quoi.
Ouais.
Mais très peu parce que des haters, non, parce que les gens, et ça arrive, des gens qui écrivent, mais peu, mais qui disent « j'ai lu votre livre et j'ai pas aimé du tout », ils expliquent pourquoi ils ont pas aimé ce livre, mais en fait, c'est formidable, parce que c'est vraiment, c'est qu'il y a un attachement, c'est qu'il y a une lecture. En fait. On peut pas, mais il y a pas, en tout cas, j'ai jamais eu et vu de haine gratuite de gens qui sont juste à pour haïr. Mais je crois que le livre et la littérature protègent un peu de ça.
Bon, il est sorti quand ce dernier roman? Il y a quelques jours seulement.
Non, il est sorti il y a deux mois.
Il est sorti
le 27 février.
Il s'est déjà écoulé à plus de 248 000 exemplaires, rien qu'en France.
Ouais,
il est numéro 1 en Italie, en Espagne. Enfin, ça doit être merveilleux.
C'est vertigineux, c'est fou. Ben, c'est merveilleux et c'est en même temps, c'est un moment génial parce que c'est la reconnaissance d'un travail, mais déjà fait. C'est-à-dire que ce livre, j'ai terminé de l'écrire l'été passé.
Ouais.
Et donc, c'est formidable parce que ça me ramène à l'été passé, à tous ces doutes et à tout ce que je vivais quand j'écrivais ça, en me disant, mais est-ce que les lecteurs vont comprendre? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont le lire? Est-ce qu'ils vont lire le livre en entier? Parce que moi, j'avais l'impression que ce livre était plutôt lent. Et là, les gens me disent, ah, j'ai lu en un jour, c'est formidable. Et il est quand le suivant? Et là, je dis, mais il me faut deux ans pour écrire un prochain livre.
Ce qui est réjouissant aussi, au-delà du chiffre que Sophie vient d'évoquer, c'est que grâce à vous, en partie, on repart littérature. Les gens relisent.
Ouais, ça c'est...
Le livre redevient un objet dont on a envie de parler, on a envie d'échanger autour de ça.
Et ça, c'est très important. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi, merci de le présenter. Je ne sais pas
non,
si c'est grâce à moi.
Vous faites grandement partie quand même.
Mais c'est vrai que les gens aiment lire, mais les gens ne se rendent pas toujours compte.
Oui.
Et en fait, il faut faire lire parce que tout le monde adore lire. J'ai jamais rencontré des gens qui m'ont dit « en fait, je déteste lire ». Il y a des gens qui ne lisent pas encore ou qui ne lisent plus et qui ont besoin d'être réemboîtés dans le plaisir de lire. Mm-hmm. Et pour ça, il faut juste leur mettre entre les mains un livre qui va leur plaire.
Alors, ça tombe bien parce qu'on a comme auditrice qui joue avec nous quand on va jouer dans votre univers. On a une professeure de lettres et de latin au collège qui s'appelle Marjorie. Vous êtes là, Marjorie ?
Oui, tout à fait.
Et donc, j'imagine que ça doit être pour vous un vrai plaisir de pouvoir dialoguer avec Joëlle Dicker. Elle a lu tous vos livres, Marjorie.
Merci, bonjour, Marjorie.
Je vous laisse dialoguer avec lui.
Allez, on vous laisse tous les deux.
Avec plaisir, écoutez, moi j'ai plein de questions à poser.
Alors, vous avez adoré en particulier son premier roman.
Ah oui, et son premier roman, Le dernier jour de nos pères, je l'ai lu après l'affaire Harry Québert, parce que j'aime bien lire plusieurs livres du même auteur.
Ouais.
Et donc voilà, à l'époque, il n'y avait que celui-ci avant. Et je l'ai aimé. Adoré, mais vraiment.
Merci.
Et je l'ai offert à tout le monde, en fait, Le dernier jour de nos pères.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier ?
Parce que c'est un roman un peu historique.
Ouais.
Et voilà, il a tout en fait. On est à la fois du côté du roman d'espionnage, il y a les histoires d'amour, il y a tout. Et c'était juste. Moi, ça a été un de mes premiers coups de cœur depuis bien longtemps en littérature. Et ce que j'aime en fait chez Joëlle Dicker, c'est juste que il se regarde pas écrire. C'est une écriture dans laquelle on rentre et puis on tourne les pages et on n'a pas envie d'arrêter de lire.
Ah, je suis pas touché, merci.
Ça, c'est un joli compliment.
C'est vrai que c'est un très joli compliment. Merci, parce que et ce que vous dites me touche beaucoup, pas par rapport à mes livres, mais à la littérature, c'est ce réflexe, j'ai envie de l'offrir. Et ça, c'est quelque chose que seuls les livres peuvent, parce que vous avez vu une bonne série, bon, vous allez dire, tiens, va voir cette série, vous avez vu un bon film, pareil, vous n'avez pas acheté un billet de cinéma, mais vous avez lu un livre qui vous a plu, c'est la porte d'entrée vers un partage, vers une amitié, vers quelque chose de très fort, en fait.
C'est mon livre, un sentiment, un échange, une intimité, quelque part.
Mais
j'ai ressenti ça. J'aimerais que tu ressentes la même chose.
Et qu'est-ce que tu as ressenti ? C'est un moment de partage. Et c'est un moment où on a le droit de ne pas être d'accord. Dans un monde, on doit toujours être d'accord. Et si on n'est pas d'accord, on se crie dessus, on s'insulte sur Internet, etc. La littérature, elle permet de ne pas être d'accord ensemble. C'est bien de ne pas être d'accord, c'est la diversité.
Et on n'est d'ailleurs pas d'accord sur le préféré. Pas forcément, mais globalement, avec les personnes avec qui j'ai partagé, c'est là où on se rend compte de la qualité, justement, d'écrivain. C'est-à-dire qu'il y en a qui font un gros succès et c'est pas vraiment égal. Vous, on n'est pas d'accord. On a chacun presque notre préféré. Et ils sont tous au même niveau. Donc c'est dur et c'est des histoires
différentes. Il y en a chez vous en particulier qui a une place particulière dans votre esprit, dans votre cœur, dans tout ce que vous avez écrit ?
Non, pas vraiment, parce qu'ils ont tous une résonance. Ils ont tous aussi, c'est des romans qui sont particuliers parce que je reste, et malgré tout ce succès, et merci à tous mes lecteurs, aux libraires, enfin à tous ceux qui ont fait ce succès. Je reste un jeune auteur en termes d'œuvres, parce que c'est seulement mon 7e livre.
Ouais.
Et donc en termes d'âge aussi. Vous avez galéré,
pardon ?
Vous avez galéré avant d'être publié ?
J'ai galéré moins
deux jours.
Mais c'est... non, j'ai galéré 8 ans. J'ai écrit 5 romans avant.
Ah oui,
qui ont été
ça.
Tous refusés par tous les éditeurs possibles et imaginables. Et puis finalement, Les derniers jours de nos pères, et puis ensuite...
Qui sont où les autres alors, ceux qui ne sont pas sortis ?
Ils sont dans mon tiroir, cachés.
Et on peut les voir un jour ou pas ?
Je sais pas, un
on
jour
peut
peut-être.
Vous
pouvez
aller chez vous.
Vous
pouvez
aller chez moi, avec plaisir.
Oh, les amis, vous avez.
On dirait qu'on reçoit Mick Jagger. Vous avez demandé un fou.
Pour poser vos questions, là. Parce que je n'ai jamais vu comme ça. Là. Ils sont pas excités. Donc, on va continuer à vous interviewer. Bien sûr, vous restez avec nous jusqu'à 18h, mais on va faire jouer Marjorie aussi. Et là, on va jouer au chiffre du jour, Marjorie.
Europe 1. 1 180 000 centimes.
Non,
je vais finir dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Alors, je rappelle qu'il y a 900 euros hein, dans le jackpot si vous me donnez 4 bonnes réponses. C'est un chiffre qui a un lien, bien sûr, avec l'univers de Joëlle Dicker. Je vous donne le chiffre 40. À quoi cela correspond-il, selon vous, Marjorie ? Au nombre de pages de son premier livre intitulé « Le Tigre », écrit alors qu'il était encore au lycée, au nombre de langues dans lesquelles a été traduit son livre « La vérité sur l'affaire Harry Québert », ou au nombre de personnes qui perdent la vie dans son livre « La disparition de Stéphanie Meller ».
Ah, c'est pas facile, hein.
À mon avis, Marjorie va se balader. Qu'est-ce que vous avez dit, Marjorie ?
Ce sont les langues, il me semble. Hein. Ce sont les langues dans lesquelles le livre a été traduit.
Est-ce que je bloque votre réponse ?
Oui. Je l'ai entendu tout à l'heure, vous l'avez dit, je crois.
C'est une bonne réponse.
Ouais,
un carton international pour ce roman qui a même attisé les convoitises de Steven Spielberg.
Oui.
Mais au final, c'est Jean-Jacques Haneau à qui vous avez fait confiance pour son adaptation en série. Car vous dites qu'il a mieux compris le livre que vous. C'est drôle.
Jean-Jacques a tout compris. Et quand je l'ai rencontré, quand on s'est rencontré pour la première fois, ça m'a vraiment frappé parce qu'il m'a raconté le livre
d'une façon absolument unique. Je me suis dit, cet homme a tout compris. Et j'ai adoré ce projet, et il a été absolument incroyable, mais ça a été une expérience humaine très forte.
Génial. Oh. Alors, on va jouer au bluff, Europe 1, dans votre univers. Vous parlez de braquage, le roman démarre par un braquage, et justement, on va parler de braquage dans le bluff.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, le principe est simple, je vais poser une question et chaque copain va proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. À vous, Marjorie, de trouver la bonne réponse. On va parler de braquage et plus spécifiquement de braquage alimentaire. Lequel des braquages dont vont nous parler les copains a bel et bien eu lieu ? Yvan.
Alors, il s'agit du braquage de la banque Credito Emiliano en 1971 en Italie. Écoutez bien, cette banque avait une pratique unique au monde, elle acceptait pour rembourser les prêts bancaires de ses clients d'être payés en parmesan.
Non mais
attendez. Vous savez pourquoi ? Alors évidemment de façon modérée, pas exclusive, parce que la valeur du parmesan sur le marché mondial était éternellement stable et que ça lui donnait une image d'innovation et de proximité avec la communauté agricole, essentiellement ses clients.
Pipo, n'importe
j'y
quoi.
Crois non,
c'est pas, je crois pas.
C'était évidemment
mais,
vrai.
Mais pas du tout. C'est malheureusement beaucoup moins romanesque. Il s'agit du braquage Kinder Surprise Nutella. En 2017 à Neustadt en Allemagne, un camion réfrigéré rempli de 20 tonnes de Kinder Surprise et de Nutella pour une valeur entre à peu près 50 et 70 000 euros a été volé et n'a jamais été retrouvé. Car c'est moi. Et qui est tout mangé.
Moi, ils ont piqué le parmesan, vous avez compris, je précise.
Voilà, non, mais c'est vrai. C'est
alors, rien
ça.
À voir, moi, je vous emmène justement à Détroit, dans le Michigan. Une histoire incroyable aux États-Unis, des braqueurs qui se sont pointés à une banque qui était fermée. Donc, ils étaient un petit peu déçus. Ils se sont dit, on ne va pas en rester là, on est armés, on a prévu le coup. Donc, ils ont braqué le plus grand McDo, parce que c'est là que McDo a été créé. Ouais. Ils ont braqué le McDo et ils sont arrivés. Et il n'y avait que des caisses, parce que c'était l'année dernière, automatique, donc pas de cash. Et ils ont finalement demandé des nuggets. S'ils en ont plus de 4000. Ils sont repartis avec 4000 nuggets parce qu'il n'y avait rien.
Moi, j'y crois.
Vous y croyez ?
Et un vélo en plus. Un vélo.
Alors, Marjorie, qu'est-ce que vous pensez, vous ?
Alors, parmesan, le Kinder ?
J'hésite entre le Kinder et le McDo.
Moi aussi.
Parce que le McDo, ça me ferait rire.
Mais après, je me dis, elle a quand même inventé une ville en Allemagne pas mal.
Neustadt.
J'ai pas envie que vous perdiez.
Absolument.
Donc, sur ce coup-là, me faites peut-être pas hyper confiance. Mais j'en sais rien.
Le Kinder.
Non, mais le Kinder, j'y crois pas.
Mais si, c'est ça.
Moi, je crois qu'au parmesan. T'imagines, piquer du parmesan, c'est quand même plus romantique.
Moi,
je dis Enora.
Ouais. Merci, Jean.
Croise en moi.
Alors, en fait, ce qui m'avait tiqué, c'est les 4000 nuggets.
Ouais. Clément, c'est trop.
Mais c'est trop, c'est 4000.
Il aurait dit
40. Ouais.
Tu aurais dit 40, voilà. C'était 40, bon.
Oui.
Ouais. Alors que 20 ans.
Je vais redire ma fausse info, c'est 40.
Il est excessif. Il est excessif.
Bon, alors, Marjorie, qu'est-ce qu'on fait ?
J'aurais tendance à dire les Kinder.
Oui, d'accord.
Parce que j'aurais aimé les donner, moi, à plein d'enfants autour. Donc, okay. Voilà.
Donc, je m'empresse de bloquer votre réponse. Car c'est la bonne réponse.
Ouais. Non, mais c'est fou.
Et alors, j'ai une autre info, parce que donc, ce braquage a vraiment lieu. Ils n'ont effectivement jamais retrouvé le camion réfrigéré rempli de Nutella et de Nutella, Kinder. 20 tonnes. Et le même week-end, non mais tenez-vous bien, à 400 km, donc pas si loin de Neustadt, c'est 30 000 litres de jus de fruits qui ont été chourés. Donc je ne sais pas quelle est la personne qui a organisé ce goûter géant en Allemagne, mais on aurait bien aimé y être. Voilà, il y avait de quoi faire. Bon, bravo en tout cas Marjorie, deux bonnes réponses pour vous. Alors, chère Marjorie, on va jouer, je vais vous poser une question dans l'univers de Joël Dicker. Il est suisse, vous le savez. Donc on va vous poser une question de drapeau.
C'est votre seul défaut d'ailleurs, vous êtes suisse.
Alors, donc vous êtes suisse et la Suisse a la particularité d'avoir un drapeau non pas rectangulaire mais carré.
Ouais.
Elle est l'un des deux seuls pays à en avoir un pareil. Pourriez-vous me dire quel est le deuxième pays qui possède un drapeau carré ? Marjorie, est-ce que c'est le Liechtenstein, Malte ou le Vatican ?
On va pas le répéter deux fois, c'est pas facile, Liechtenstein.
vous dites le Liechtenstein, Malte ou le Vatican. Exact. Et si je vous dis que je n'en sais rien.
Non, on va vous aider à réfléchir.
Qui c'est autour de la table?
Alors, on est un peu sec sur l'histoire, mais
on va pas que sur l'histoire concernant.
Est-ce que nous on a un indice?
Je pensais être porte-enfant en drapeau. C'est pas, je crois pas que ce soit le Liechtenstein.
Moi, je ne pense pas.
Clément, il sait toujours tout.
Moi, je dirais, le drapeau le match. Alors attendez, je vois pas le drapeau du Vatican.
Vatican,
c'est juste un carré blanc, c'est ça. Hein.
Ah ouais. C'est alors pour justement, moi, c'est quel est le drapeau
Ce serait le Vatican. Ouais,
c'est un carré blanc. Je crois que c'est ça.
Donc vous diriez.
Moi, je dirais le Vatican.
Vous
je
êtes suis drôle, en train de penser au drapeau.
Je suis hyper fort en drapeau.
Mais il est fort en tout. Mais moi, c'est le surnom. Pardon, Marjorie.
Je suis prof de latin, on va dire le Vatican.
Ah oui.
Est-ce que je bloque cette réponse?
Ouais, moi je pense que oui, vous pouvez.
Bah écoutez, vous avez l'air assez sûr de vous, donc oui,
non,
on va
dire. Faites-moi confiance, Clément vient du latin.
Je fais confiance.
Et le pape Clément,
évidemment. Vous connaissez la réponse, vous, Joël?
Non, mais je bois les paroles de Clément, et je le suis les yeux fermés.
Voilà. Et en tout cas, c'est une bonne réponse.
Ouais. Il est fort, ce Clément.
C'est le seul pays au monde à avoir un drapeau. Le Vatican est le seul pays avec la Suisse à posséder donc un drapeau carré. Et le seul pays au monde à avoir un drapeau non quadrangulaire, c'est le Népal.
Oui, qui est composé. Deux petits triangles rouges et
bleus. Vous êtes aussi allé au Népal.
Non, mais je suis fort en drapeau.
Non, mais c'est le drapeau. Il y a
tous ces voyages.
Il y a même deux drapeaux qui. Il y a deux drapeaux qui sont similaires. Je crois, je ne sais plus si c'est pas la. Il y a un pays d'Afrique et un pays d'Europe qui ont exactement le même drapeau, même couleur.
Lesquels? Tu as 10 secondes.
Je dirais la Moldavie ou la Roumanie qui ressemble.
C'est une bonne réponse. Bravo, Clément.
J'aurais tellement aimé être à l'école avec toi. Je reste tant triste.
C'est pas possible.
Alors, ça fait 3 bonnes réponses pour Marjorie.
Yes,
bravo. Alors, je dois vous signaler aussi qu'on peut désormais trouver la version poche de l'affaire Alaska Saunders en librairie. Donc, ça, c'est important à signaler. Et alors, vous avez créé votre propre maison d'édition?
Absolument.
Qui s'appelle Rosie et Wolf.
Et par fidélité, j'ai entendu ça.
Oui, mais parce que c'est une maison qui a vocation de lire et faire lire, et que ce sont deux personnages importants dans ma vie qui m'ont donné envie de lire, envie d'écrire aussi. Et c'est vraiment, je l'ai créé dans l'idée de pouvoir réunir les gens autour de la lecture en général, sans créer de division, comme parfois la littérature ou le monde de la littérature peut donner cette impression que la littérature, c'est pas pour tout le monde, que si c'est trop facile, c'est pas bien, que si c'est trop difficile, c'est que c'est bien, qu'on ne doit pas tous se retrouver autour d'un bon livre. Et c'est dommage. Donc voilà, j'avais envie de casser un peu cette image.
Bravo.
Donc vous éditez d'autres auteurs?
Oui, absolument.
Que vous choisissez vous-même?
Oui. Ouais.
Des auteurs suisses ou pas?
Qu'est-ce
que
riches en rencontres.
Riches de rencontres.
Absolument.
Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est par fidélité pour son éditeur qu'il a justement choisi de ne pas le trahir et à sa disparition.
Non, mais toi, tu l'aimes d'amour.
Éditeur absolument extraordinaire, Bernard de Fallois, qui m'a fait du chagrin une fois dans sa vie, dans la mienne. C'est quand il est décédé en janvier 2018. Sa maison a fermé parce que son souhait, c'était que sa maison ne lui survive pas. Et je ne me voyais pas aller ailleurs. Je ne voyais pas aller chez un autre éditeur que lui. Et comme c'était un homme très rigolo, qui aimait bien faire des coups comme ça, qui était très indépendant aussi, je me suis dit, je crée ma propre maison en souvenir de lui. Voilà.
Oh, après, c'est un binôme, l'éditeur et l'auteur, c'est un vrai binôme.
C'est un vrai binôme, ouais.
Quand vous avez assisté au tournage de la série, donc adaptée de l'affaire Harry Kéber, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Mais j'ai ressenti ce vertige d'un tournage où il y a 200, 300 personnes ensemble, et chacune de ces personnes est indispensable pour que ça marche. Mm-hmm. Et moi qui viens d'un métier dans lequel j'écris tout seul, je fais mon livre tout seul, je suis solitaire.
Vous étiez sur tout le tournage, tout le long?
Ouais, presque tout. Et c'est incroyable, parce que de voir comme ça, ces gens qui tous ensemble, on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne, moi ça m'a fasciné.
Et sur les acteurs, vous aviez votre mot à dire aussi ou pas, en disant tiens, j'aime bien, est-ce qu'il vous a fait valider par rapport à vos personnages?
Non, mais je voulais pas l'avoir. C'est-à-dire que Jean-Jacques m'en a parlé évidemment, et je lui ai dit c'est très bien, quoi que tu fasses, je te suivrai, mais j'avais pas en tête de contrôler, j'avais pas envie, c'était vraiment son projet.
Bon, on va jouer avec Marjorie. Vous avez déjà 3 bonnes réponses et ce jeu va être important parce que si vous trouvez le mot mystère, Marjorie, vous pourrez tenter le jackpot. Une question mot mystère. Alors, ce petit poète-poète remplace le mot que vous devez trouver. Je vais vous donner trois citations. Et c'est un mot dans l'univers de Joël Dicker. J'avoue que j'ai été un peu surprise, mais il va nous... Enfin, il nous le dira. Voici la première citation de George Foreman. Là, et comme le jazz, mieux c'est, moins les gens l'apprécient. Là, et comme le jazz, mieux c'est, moins les gens l'apprécient.
La sexualité. Je tente un truc.
Non, parce qu'il n'y aurait pas de raison de moins l'apprécier si c'est mieux.
Attends, mais Foreman, c'est pas les barbecues ?
Oui, si. Ouais.
Marjorie, vous avez une idée ?
Foreman, c'était pas un... Il n'y a pas eu un match...
C'est un boxeur.
Ouais. C'est un boxeur, ouais, hein.
Ça va balancer la boxe.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, Marjorie ?
La boxe, mais après, il faut attendre. On va attendre les autres.
Marjorie, la boxe, c'est comme le jazz. Mieux c'est, moins les gens l'apprécient. La deuxième citation est de Jordi Bonnels. La boxe a toujours été l'opéra du pauvre et des voyous.
Ah, c'est donc ça.
Ça pourrait aller.
Et la troisième, Internet marche mieux quand elle est là. La boxe, c'est tout.
Et la troisième citation, Claude Nougaro. Quatre boules de cuir tournent dans... Oh bah tiens, je vais vous laisser le dire, Yvan, cher Yvan. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique.
Vous faites bien, hein. Pourtant, vous êtes Bordeaux.
Et alors là, c'est pouet.
Ouais, c'est boxe, boxe. Ah bah oui, là, je pense que oui.
Donc, c'est une bonne réponse de Marjorie, bravo. Il paraît que vous êtes fan de boxe, d'arts martiaux.
Vous boxez. Non, mais j'adore ça parce que c'est un sport qui ne ment jamais. Ouais. On peut pas se mentir, on est seul face à soi. Et puis surtout, ce qui est fascinant, c'est se relever. C'est-à-dire, quand vous gagnez un combat et de remettre votre ceinture, quand vous êtes le champion du monde, vous pouvez que rater après ça, vous pouvez que perdre. Au mieux, vous faites pareil, vous regagnez. Et puis, si vous perdez, il faut être capable de remonter sur la ligne, de tout recommencer. Et c'est des leçons de vie assez incroyables.
Elle est étonnante, cette phrase de Foreman. Plus elle est belle, en fait, plus elle est bien boxée, et moins elle intéresse les gens.
Pourquoi? Parce que
c'est quand même un peu les jeux du cirque aussi. On a envie de voir l'autre en baver un peu.
Ça veut dire quoi?
Il faut que les gens soient
attirés par des choses un peu vulgaires.
Si les deux sont trop forts, il faut vraiment s'y connaître pour apprécier. C'est plus drôle quand il y en a un qui se prend des coups, qui tombe en 10 secondes. C'est un moins beau combat. Moi, je fais un peu de boxe. Et là où je suis pas d'accord, on est seul tu face à soi-même. Il y a quand même un gars en face qui met des coups. Vraiment, par expérience, je me suis inscrit pour faire beaucoup de cordes à sauter. C'est moi mon truc.
C'est ça.
Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut applaudir Marjorie Caca? Bonne réponse. Bravo. Dans quelques instants, elle tentera un jackpot. Il y a combien 900 euros à gagner, donc c'est un joli jackpot. On vous avait préparé un petit blind test en lien avec un thème très présent dans votre œuvre, celui des animaux. On a trouvé qu'ils étaient très présents dans votre œuvre. Voilà. Donc voici, il faut deviner des chansons. Là là. Marjorie peut jouer avec nous. Voici le premier extrait. Il faut deviner le titre et l'interprète.
Ça aurait été drôle.
C'est difficile.
Ça s'appelle Animal.
Francis Cabrel. Oui, voilà. Ah, oui. Dans son album Sarbacane, sorti en 89.
Signal.
Deuxième extrait. Bravo Marjorie. C'est bon ça.
2/2.
Troisième extrait.
Un petit dé à te coudre et trois gouttes d'eau.
Pierre Perret.
C'est tout le monde qui joue, Yvan. Donc c'est Marjorie.
La cage aux oiseaux.
Oui, bravo. 1971.
La cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez.
Petits oiseaux. Bon, je peux pas la chanter.
Il y a une autre interprétation de cette chanson.
C'est bon, tu vas la dire.
Ah, c'est Cure.
Ouais, 1983.
C'est la voix de Cure.
Ouais, absolument. C'est ma jeunesse. Et enfin.
C'était quel animal?
Le poisson rouge, je crois.
Et m'emporter
Ah bah
c'est le cimetière des éléphants.
Je sais. Ouais, bravo Marjorie.
C'est quel animal?
Les Cure, c'était The Love Cats.
Ah, The Love Cats.
Voilà. Vos lecteurs pourront prochainement vous rendre visite en Italie à Turin le 11 mai, puis en Suisse le 16 mai et le 18 juin prochain aussi. En Suisse.
Oui. À Lisbonne aussi.
Vous faites une tournée mondiale, comment ça se passe? D'abord européenne.
Ouais. Et après quelques autres pays dans le monde, mais je vais limiter parce qu'il faut que j'écrive aussi.
Oh là, ouais. C'est bien, on le sait.
Il faut un traducteur pour les dédicaces. J'imagine que quand, si vous allez à l'étranger, qu'il y a la barrière de la langue.
Du cœur,
c'est de dire, ok, cool.
Oui.
Et vous arrivez à trouver des connexions avec vos lecteurs qui ont d'autres cultures?
Mais complètement. Ouais. C'est hyper intéressant, justement, parce qu'ils ont leur approche, ils ont leur lecture à eux. Et ça qui est beau, cette universalité. Un texte qui bouge comme ça en fonction de ceux qui le lisent.
Et ils sont réadaptés? C'est-à-dire qu'il y a des changements?
Non,
ou pas
aucun.
Du...
Non.
Non, parce que j'allais lire en japonais, du coup, pour vraiment voir. C'est vraiment, il y a d'autres vannes dedans.
Vous êtes déjà en train d'écrire un prochain roman?
Oui, il y a toujours quelque chose.
Il y a toujours quelque chose.
Après, je ne sais jamais si ça va vraiment être le livre ou pas. Est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que ça sera l'idée d'une autre idée?
Comment vous faites quand vous êtes en promo? Comme ça, vous écrivez quand même très tôt le matin ou le soir, vous trouvez toujours un moment?
Quand j'ai un peu de temps, il y a des jours où je n'ai pas du tout le temps et je me force pas. Il y a des jours où j'ai des plages qui me permettent de le faire et je le fais.
Il a commencé un roman depuis tout à l'heure. Je l'ai vu, moi, il écrivait un truc.
Bon, en tout cas, on vous invite à découvrir ce dernier roman, le 7e, Un animal sauvage, qui est absolument captivant. Moi, merci. Je ne l'ai pas lâché. J'ai dû le lire, je ne sais pas, en un jour et demi. Enfin, j'ai passé mon temps à le lire. L'histoire de deux couples, donc, qui s'observent, qui s'envient, et puis un braquage au milieu de tout ça. Enfin, c'est difficile d'en faire le pitch parce qu'on est emporté dans l'histoire.
Et puis parce qu'on va spoiler surtout.
Grand moment pour Marjorie. Allez, maintenant. Marjorie. Il y a 900 euros à gagner, Marjorie, si vous me donnez 10 bonnes réponses. On est tous derrière vous.
Allez, Marjorie.
Exercice de rapidité. Donc si la réponse ne fuse pas, passez à la question suivante. Okay,
ok. Bonne chance à vous.
Bonne chance.
Merci.
Attention, Marjorie, top chrono. Si je regarde jouer les Bolton Celtics, je regarde quel sport?
Du baseball.
Jim Morrison est mort dans le 4e ou le 16e arrondissement de Paris?
4e.
Quel groupe commençant par Z décomposé de rockers barbus?
ZZ Top.
Le Triceratops était herbivore ou carnivore?
Herbivore.
Qui chantait « J'ai pris un homard sous tomate, il avait des poils aux pattes, Félicie aussi
pas. » Ah, si, je sais. Non, mais c'est pas grave. Passez.
Quel mouvement musical bref mais intense a été lancé par Nirvana?
Grunge.
De quel groupe Axel Rose a été le charismatique chanteur?
Axel Rose.
Durant quel siècle a vécu Jean-Jacques Rousseau?
18e.
De quel pays Rishi Sunak est le Premier ministre?
Angleterre.
De quelle nationalité était le père de Coluche?
Italien.
Au cinéma, qui partage l'affiche avec Richard Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté?
Belmondo.
Qui est le réalisateur d'Itinéraire d'un enfant gâté?
Passe.
Oh,
encore un œuf.
C'était Jean-Jacques Cano?
Non, Claude Lelouch.
Vous avez été super
vous êtes incroyable.
Et alors, Fernandel, c'est Fernandel qui chantait.
Mais je l'ai eu en fait quand vous. Oui, voilà.
J'ai pris un homard sauce tomate.
Il avait du poil aux pattes. Hein. Elle l'avait en plus. Elle l'avait.
Oui, moi je témoigne. Hein.
Bon, écoutez, en tout cas, je suis sûre que vous aurez adoré passer ce moment avec Joël Dicker. Je vous offre quand même, chère Marjorie, une enceinte Bluetooth magnifique. Vous pourrez écouter Europe 1 partout où vous le souhaitez. Vous pouvez la découvrir sur lexon-design.com. On rajoute 100 euros dans le jackpot, désormais à 1000 euros.
Allez, j'appelle.
Merci à Joël Dicker d'être venu nous voir
merci
aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Et bravo pour tout. Franchement, merci. Vous nous avez éblouis.
On s'est régalé.
On aura appris plein de choses aujourd'hui encore, que Gainsbourg était obsédé par le Requiem de Mozart, que les seuls drapeaux à avoir un drapeau, les seuls pays à avoir un drapeau carré sont la Suisse et le Vatican, et que le fil rouge de tous les livres de Joël Dicker, c'est le sens de la vie, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous écrivez sur de la musique, vous?
Toujours, oui.
Toujours.
De la musique classique? Musique classique, jazz, de l'opéra, rarement des chansons en français parce que ça me perturbe puisque j'écris
D'accord. Donc c'est en fonction du thème que vous choisissez.
Non,
vous choisissez
le rythme. Je cherche une chanson qui a du rythme, un rythme qui me parle, et puis je la mets en boucle en général. C'est assez basique.
Merci beaucoup, Joël Dicker. C'était un plaisir
merci
de vous accueillir.
Invitation. Merci beaucoup.
Merci aux copains du jour, Yvan Cujous et Nora Malagré, Clément Lanoux. Bravo à tous nos candidats, et notamment à Marjorie qui a été brillante.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie Davant en direct aujourd'hui avec en invité le comédien Clovis Cornillac pour le film Un petit truc en plus qui sortira en salle ce mercredi. Voilà, Sophie et les copains, 16h, 18h sur Europe 1. Et voilà, c'est la fin de nos programmes de nuit. Une nuit qui s'achève sur un titre de 1997. Initialement composé pour le film de Bertolucci, Beauté volée, il est signé Björk. Voici Bachelorette, extrait de l'album homogénique pour accueillir Alexandre Lemaire et Omblin Roche aux commandes de votre premier rendez-vous d'info de la journée. Europe 1, bonjour. Je vous salue bien, je vous souhaite un excellent réveil et puis un bon mardi à l'écoute de nos programmes.
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue et bon réveil avec Europe 1. On est ravis de vous retrouver. On vous accompagne jusqu'à 7h. C'est Europe 1, bonjour, avec Omblin Roche. Bonjour, Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Vos rendez-vous d'actualité dans Europe 1, bonjour. L'éclatant succès du plan épargne retraite d'abord. Plus de 10 millions de Français ont maintenant leur PER. Alors même Bercy n'osait pas imaginer un tel succès, c'est dire. Hein. C'est une formule qui séduit les Français, mais qui trahit sans doute aussi l'angoisse que vous pouvez avoir pour vos pensions de retraite, la crainte de pensions au rabais. Avantages et inconvénients du PER, le plan épargne retraite, on va en parler. parler à 7h-20 sur Europe 1 avec Ludovic Erchlikowitz du portail retraite.com. Alerte au choléra, ça se passe cette fois à Mayotte. Alors décidément, cette région française de l'océan Indien accumule les maux. Hein. Les cas de choléra s'y multiplient depuis quelques jours maintenant. Le premier est arrivé des Comores. Les Comores voisines d'où arrivent des vagues d'immigrés clandestins. Le choléra est une maladie de la pauvreté, on le sait, hein, quand on n'a pas accès à l'eau potable. Alors il faut vacciner très vite, mais Mayotte ne peut déjà plus faire face sur le plan sanitaire. L'hôpital est saturé. Vous allez entendre la colère et l'appel à l'aide également d'Estelle Youssoufa. Elle est députée Lyotte de Mayotte. Elle sera avec nous à 6h-20 sur Europe 1. Après le journal, on blinde Roche, à 5h20, les initiatives en France.
Oui, une nouvelle application ce matin pour aider à sortir de la dépression. Voilà, voyez ça comme une autothérapie avec l'aide de contenu, des vidéos, des podcasts et puis des exercices. Cette application Feel est un moyen de pallier un manque dans la prise en charge des malades. Elle a été conçue par des psychiatres et l'objectif est donc de reprendre le contrôle de ses émotions en toute autonomie donc et en à peine quelques mois. Les explications dans 20 minutes.
Bonjour Anissa Dadis.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline, bonjour à tous.
Votre histoire dingue, Anissa, à 5h15. Alors, c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Hein, pour vous qui êtes experte de la météo, là, il s'agit en réalité d'un déchet de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, qui est allé éventrer le toit d'une maison. Ça se passe en Floride.
Le toit et deux étages. Imaginez le fils de cette famille qui a 15 ans, qui était tranquillement chez lui et qui d'un coup voit tomber une masse d'environ 1 kg, entre 800 grammes et 1 kg et qui transperce la maison plus les deux étages. Je vais vous raconter d'où vient ce déchet, est-ce que c'est fréquent et qu'est-ce qu'on risque.
Il a dû avoir très peur, ce pauvre garçon. Vous allez nous raconter ça, Anissa Dadi. Côté ciel, je ne sais pas si le ciel nous tombe sur la tête, mais en tout cas il pleut encore et encore aujourd'hui.
L'eau, elle nous tombe bien sur la tête depuis plusieurs semaines. Ça c'est vrai, c'est le programme d'une bonne partie de la semaine, la pluie. Ce dernier jour du mois d'avril sera donc arrosé entre les Hauts-de-France et l'Hérault. Donc vous voyez que ça concerne une grande partie de la France, parce que c'est de l'extrême nord à l'extrême sud, hein, vraiment en passant par la région parisienne, le Loiret, le Nivernais, le Centre, l'Auvergne, le Limousin.